À voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dion rencontre Éric Cantona. Troisième entretien.
Éric Cantona, bonsoir.
Bonsoir.
Comment s'est terminée l'aventure auxerroise ?
Je suis parti à Marseille.
C'était un vrai choix ?
Ben, c'était un vrai choix. Je venais d'être international, c'était un club formateur, Auxerre, et puis Auxerre, c'était un club qui formait. Hein. C'était un club qui formait. C'est ensuite vendre un joueur pour continuer à financer le centre de formation et à faire de la formation. Et en même temps, pour ceux qui, à ce moment-là, sont demandés par les plus grands clubs, on passe. Auxerre, c'est une étape. C'est la formation, c'est les premières années en première division, c'est les premières sélections, et puis ensuite, c'est jouer dans les plus grands clubs. Donc à l'époque, c'était Marseille.
C'était chez vous.
C'était Marseille. Il y avait le Matra Racing aussi à l'époque qui essayait de monter une grosse équipe avec. C'était Lagardère, le président. C'était Arthur Georges, l'entraîneur. Et puis je suis allé à Marseille. Ouais, c'était chez moi.
Déjà, vous avez fait parler de vous, Éric Cantona, à ce moment-là, puisque je crois que le montant du transfert était déjà.
C'était le record à l'époque.
C'était le record, 22
mais
millions,
22
je crois.
Millions.
22 millions de francs. C'était énorme à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre conscience que vous valiez 22 millions de francs? Est-ce que ça vous a rendu fier, au contraire, ça vous a choqué? T'en souvenez?
Non, je m'en souviens, mais je me sens pas. Je me souviens pas de m'avoir. Je ne suis pas posé ce genre de questions parce que il y avait le montant du transfert, mais il y avait le salaire aussi.
Ah oui.
Le salaire, c'était pas le salaire que j'avais à Auxerre, quoi. Donc c'était des salaires, c'était des gros salaires, quoi. Donc. Mais bon, ça allait avec le truc de passer d'un club formateur à un club plus... Parce qu'à cette époque-là, les clubs français, c'était les internationaux français jouaient dans les clubs français. Et les étrangers qu'il y avait faisaient partie des meilleurs étrangers. Voilà. Les choses ont évolué, quoi.
Voilà. Et vos parents, enfin Albert, votre père, qui était footballeur, à cette époque-là, il vous a conseillé d'aller à Marseille ou... Non. Il n'est pas intervenu.
Non. Si je lui demandais quelque chose, il me disait, mais...
Il l'apprenait comme les autres, c'est ça?
Non, il apprenait pas, parce que je le tenais au courant avant, mais c'était mon choix, quoi. Donc, tant que je lui demandais rien, si j'avais pris cette décision, c'était la bonne décision pour lui, quoi. Voilà. Et puis si on se trompe, eh bien on apprend et puis on continue d'avancer, quoi.
Et l'expérience de Marseille, c'est celle que vous attendiez?
Non. J'ai fait deux séjours à Marseille, en fait. En fait, je suis arrivé une première année et puis j'ai été prêté à Montpellier, on gagne la Coupe de France et je reviens. Et là, je commence bien l'année. C'était Beckenbauer, l'entraîneur. Et puis, je me fais un arrachement des ligaments au genou, et puis je suis 3 mois dehors, quoi. Et puis, donc, 3 mois dehors, ça veut dire 3 mois dehors, c'est 3 mois pour pouvoir jouer. Et après, 3 mois, c'est le temps d'arrêt, normalement, c'est le temps que tu mets pour récupérer. Entre-temps, Beckenbauer n'est plus entraîneur. Voilà, donc c'était une année un peu... C'est dommage parce que la première année, autant je pense avoir ma part de responsabilité parce que c'est la première année où on sort comme ça de 8 ans de formation, d'Auxerre, machin, et je me suis pas préparé comme je devais me préparer, quoi. Voilà. Mais par contre, j'apprends. Je suis capable d'apprendre, quoi. Voilà, donc la deuxième année, quand j'arrive, je suis vraiment bien préparé, quoi. Et je me prépare bien, et je continue de bien me préparer, quoi. Voilà.
Et il y a eu la blessure.
Jusqu'à la blessure, ça se passe super bien, quoi. Voilà. Et puis après, on est coupé dans son élan, mais bon, ça, après, les carrières sont longues. Elles sont faites de tous ces moments, des bons moments, des moments plus difficiles, desquels on apprend. Et il est important d'apprendre, il est important de vivre des moments comme ça, comme dans la vie de tous les jours. Hein.
De qui vous apprenez le plus dans cette époque où vous êtes déjà réputé comme footballeur, mais de qui apprenez-vous plus d'un sélectionneur de l'équipe nationale, d'un entraîneur de l'équipe où vous travaillez, de vos proches, de vos frères. Je rappelle que Joël est également footballeur.
C'est ça.
Qui joue le rôle essentiel pour continuer à apprendre?
On apprend avec les autres, mais on apprend aussi on apprend de chaque match, on apprend de chaque entraînement. C'est soit le match il est passé et puis c'est bon, il est passé et puis on passe au suivant quoi.
Vous parliez de Giroud comme étant un personnage décisif, qui a été vrai dans votre formation. L'autre Giroud avant de tomber sur Ferguson, entraîneur de Manchester, on va y venir. Quel est l'homme clé, l'homme ressource, celui qui dit Cantona, il a son caractère, il a sa personnalité, mais il faut y aller.
Il y a eu Beckenbauer à Marseille.
Beckenbauer, mais pas longtemps.
Non, moi je l'ai connu jusqu'à ma blessure, quoi. Donc je crois que je suis blessé mi-octobre, donc d'août à octobre, quoi, de mois et demi. Et après il y a Platini en tant que sélectionneur. Voilà. Mais après, on apprend aussi l'histoire de chaque entraînement, de chaque geste, de chaque situation dans un match, où on a pris telle décision qui n'est pas la bonne, et où il est important de revenir sur les matchs, où il est important de... Tiens, ça, on l'a bien fait, et puis si ça se représente, on le fera comme ça, mais ça, on l'a pas bien fait, j'aurais dû le faire comme ça, et c'est pas être paralysé, complètement prisonnier de ses souvenirs, tiens, je l'ai pas fait comme ça, puis on devient fou parce qu'il y en a qui sont comme ça. Non, c'est bon, ça, je l'ai pas fait comme ça. Donc on apprend de ses performances, on apprend de nos entraîneurs, mais on apprend aussi, c'est important, parce que nous on est dans ces situations-là. Mais après il y a des entraîneurs qui nous, ouais, des entraîneurs qui sont importants, mais c'est pas souvent des grands discours, hein. C'est des petites phrases, des petits trucs, juste le petit truc qui crée un déclic, quoi. Voilà.
En dehors du terrain, vous êtes plutôt de nature à entretenir des complicités, des amitiés avec vos coéquipiers sur le terrain ou avec les entraîneurs, ou au contraire, vous refermez?
Non, quand je jouais, j'étais... Jusqu'à jeune, j'étais... En fait, j'ai eu deux périodes, quoi. J'ai eu la période du rêve, quoi, et puis l'autre, quoi. Période du rêve où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis celle où on se dit j'attends rien de personne, quoi. Voilà.
Parce que vous avez été déçu ou au contraire?
Non, mais déçu, c'est pas, on n'est pas, c'est comme ça, quoi. C'est la vie, quoi.
On grandit et on s'aperçoit que c'est pas si
comme ça. Par exemple, je suis à Montpellier, on perd un match, on a recruté des joueurs, on a une belle équipe. On fait un très mauvais début de saison, on perd un match à Lille, il y a un joueur qui dit un truc, alors vous savez, quand ça commence à perdre, il y a les uns qui disent les trucs, machin. Puis il se passe un truc dans le vestiaire entre lui et moi, et puis Nicolin qui dit, bon, ben, Cantona, il est
viré. Nicolin, entraîneur de Montpellier.
Qui était président.
Président, pardon, de Montpellier.
Voilà, donc j'étais viré, puis il a inventé un truc qu'il a voulu faire signer par tous les joueurs, quoi. Et tous les joueurs ont signé, sauf Laurent Blanc, Carlos Valderrama, la légende colombienne, Julio César, international brésilien, et Jean-Jacques Nono, un joueur qui venait de Lyon. Bon, c'était plus grand. Hein. Mais après, il faut y revenir dans cette équipe, parce que finalement, comme ça s'était plutôt bien passé pour moi, le public,
Vous demandez.
Il me réclamait. Donc ils sont venus... gentiment me demander de revenir pour tel match. J'ai dit, je reviendrai après ce match-là. Laissons passer celui-là. Laissons les gens s'exprimer d'abord. Et après, je reviendrai. Comme ça, tout le monde aura bien compris. Et puis, je suis revenu, on a gagné la Coupe de France. C'est pas moi qui fais gagner la Coupe de France, on avait une équipe exceptionnelle. Mézi, après l'équipe, a fait jouer Valderrama, qu'on ne faisait pas trop jouer à cette époque, à ce moment-là. Et puis, on a, à partir de la deuxième moitié de saison... Si on comptabilisait les points, on aurait été champion de France. On avait tellement pris de retard qu'on n'a pas été champion. Mais on a gagné la Coupe de France. Et on pratiquait un jeu extraordinaire. Avec deux attaquants et Valderrama derrière et deux mecs sur les côtés. Ça fait 5 joueurs à vocation offensive. Derrière, il fallait des mecs qui soient costauds. Hein. Mais quand vous avez Laurent Blanc et Julio César qui jouent en défense centrale, et Lemou qui court dans tous les sens pour récupérer le ballon et qui le donne aux autres, il lui dit tiens. Parce que des fois, il voulait faire des transversales de 30 mètres. Donc Mézi lui dit non, attends, tu sais récupérer le ballon, mais tu le donnes à 3 mètres et eux, ils vont s'en occuper. Et on avait une équipe exceptionnelle. Mais il faut jouer avec des joueurs. Avec 90% des joueurs qui ont signé un truc que le président a demandé de signer. Quand vous avez 20 ans, quoi, 24 ans. Quoi.
Comment on fait hein?
Mais on s'en sort. Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit...
On bon, prend sur soi.
Finalement, ouais. C'est quoi ce monde-là ouais. Mais faut pas que ce monde-là gagne. Quoi. Donc comment je peux faire pour gagner dans ce monde-là quoi? Alors on prend un petit peu plus de recul. On se dit, j'attends rien de personne. On va passer des bons moments ensemble, mais sans voir à trop long terme. Quoi. Et j'ai continué ma vie comme ça jusqu'à aujourd'hui.
Alors il y a eu l'expérience de Nîmes, on ne va pas rester trop sur le territoire français, puisqu'il y a la grande épopée anglaise, mais à un moment donné, si on en croit Michel Platini, vous avez été un peu traversé par le doute en 91, je crois, et c'est lui qui vous a dit non, il faut aller essayer ailleurs, et c'est en Angleterre que tu peux y aller, que tu peux aller. C'est vrai ça ? C'est Platini qui a joué un rôle décisif quand il s'est agi d'aller jouer ailleurs qu'en France.
Oui, parce que j'avais arrêté le football à ce moment-là. Ça faisait 3 mois que j'avais arrêté. Je voulais plus jouer au football.
Et pourquoi?
Parce que c'était pas le football que j'avais rêvé. Quoi.
Ouais. C'était pas là où ça devait se passer.
C'était pas ça dont je rêvais. Je parle pas de jeu, je parle de... Ouais, c'était pas ça, je rêvais pas de ça, quoi. Donc tout ça m'intéressait plus, quoi. Absolument pas. Et je voulais pas participer à ce cirque, quoi. Et donc, il était sélectionneur à l'époque. Ouais. Puis il est venu, il m'a dit, peut-être, je pense que là-bas, c'est... Mais il a été fort, quand même.
Oui.
Il a été très fort.
Sinon, il n'y aurait pas eu d'expérience...
Il a été très fort parce que là-bas, c'est autre chose, quoi, le football. Ouais. Vous savez, là-bas... Une année, on est champion d'Angleterre. On a 9 points de retard et un match d'avance sur Newcastle à quelques matchs, à 8 matchs de la fin, je crois. 8 ou 9 matchs de la fin. Et finalement, on refait notre retard. On va gagner à Newcastle. Et le dernier match de championnat, ou l'avant-dernier match de championnat, mais match décisif, il y a un match... Non, ça c'est pas l'année où il y a Newcastle. C'est Blackburn. On est à la course au titre avec Blackburn. Newcastle, c'est l'année d'après. Course au titre avec Blackburn. L'entraîneur de Blackburn, c'est Kenny Dalglish. Kenny Dalglish, c'est la légende vivante de Liverpool. Et à 2 matchs de la fin, ou la dernière journée, mais un match décisif en tous les cas. Si Blackburn gagne, ils sont champions. Et même s'ils font match nul, et ils jouent à Liverpool, ou Kenny Dalglish, l'entraîneur de l'équipe adverse, a fait toute sa carrière. Et Liverpool et Manchester, c'est Marseille-Paris. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons pour s'imaginer que Blackburn va gagner, ou au moins il va faire match nul, ce qui lui suffit pour être champion. Eh bien, Liverpool a battu Blackburn. Et nous a offert le titre. Alors qu'on est les ennemis. Et que l'entraîneur de l'équipe adverse, c'est la légende vivante de Liverpool. Ben ça, il n'y a pas beaucoup de championnats où vous le voyez, ça. Vraiment très peu de championnats. Je crois qu'il n'y a que l'Angleterre. Et ça, c'est le football dont je rêve. Et dont je rêvais.
Et quand Platini vous a... préparé à vivre ce rêve-là, vous l'avez cru sur parole ?
Non, parce que je ne connaissais pas. J'y ai fait confiance.
Quand vous arrivez en Angleterre ?
Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parle pas un mot d'anglais.
Pas un mot d'anglais.
C'est le dépaysement total pour moi. Extraordinaire, d'ailleurs, ça m'a fait du bien. Ou, je suis international français. Bon, j'ai arrêté 3 mois, mais quand j'ai arrêté, j'étais encore international. Les gens ne me connaissent même pas. Puisqu'à cette époque-là...
Oui, il n'y avait pas la médiatisation d'aujourd'hui.
Non, c'est pas la médiatisation, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Français qui jouaient là-bas, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de Brésiliens, il y avait pas de... C'était des Anglais, des Gallois et quelques Scandinaves. Voilà. Et c'était magnifique. C'est un sentiment de liberté, quoi. Qui aide aussi à s'exprimer. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'après, j'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui gagnent.
Bien sûr, mais restons un peu sur Manchester, qui est quand même une épopée, on peut le dire. C'est quand même Ferguson, c'est le Giroud de Manchester, c'est le personnage avec lequel vous avez passé un pacte, quasiment. Mais si on prend vraiment du recul et qu'on prend de la distance avec cette effervescence incroyable, ces moments, comment vous expliquez ce qui s'est passé pendant quasiment 5 ans dans cette ville? Vous êtes retourné depuis pour d'autres raisons, pour le cinéma, et on va en parler. Mais au fond, aujourd'hui, vous avez 48 ans. Est-ce que quand vous regardez cette période-là, vous vous dites encore « j'ai vécu un rêve ».
Oui, oui, j'ai vécu un rêve dans un football extraordinaire, avec des un tel amour du jeu, quoi, et un tel respect du sportif, quoi, du joueur, quoi. L'Angleterre, c'est depuis toujours que les rockstars admirent les footballeurs, que les réalisateurs admirent les footballeurs, que les grands acteurs admirent les footballeurs. Vous avez eu Elton John, Rod Stewart, président de club. Vous avez eu Richard Attenborough qui était à Chelsea. Enfin, dans le comité, quoi. Enfin, c'est vraiment le football qui coule dans les veines, quoi, des supporters, quoi. Et puis et puis le respect, c'est pas simplement quand on gagne, quoi. Le respect, c'est il y a un mois, il y a eu Liverpool Real. Ils ont perdu 3-0 chez eux, Liverpool. Liverpool, hein. Mmh. C'est pas un sifflet dans les tribunes, quoi. Il y a des gens qui applaudissent à la fin, quoi, leurs joueurs. Qui applaudissent quand les joueurs vont saluer les gens. Ils applaudissent pas parce que ça jouait pas dans le jeu, parce que ça jouait pas, mais jamais un sifflet. Et quand les joueurs vont applaudir les supporters applaudissent leurs joueurs. C'est juste un jour sans, quoi. Voilà. Et ça, encore une fois, il n'y a qu'en Angleterre comme ça.
Pourquoi on n'apprend rien des Anglais sur le foot aujourd'hui encore en France? Pourquoi le supporter français, ou je dirais même espagnol, hein, c'est pas forcément que français, n'apprend rien de ce comportement que peuvent avoir les supporters ou les dirigeants des pays anglo-saxons sur le foot?
Je sais pas, on est peut-être plus méditerranéen, quoi. Plus impulsif. Ouais, on est un peu changeant, hein. Et puis au soleil, chez l'Espagne, l'Italie, Marseille. Mais je pense que c'est important parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, quoi, on revient à la confiance, quoi, on revient à tout, quoi. Les joueurs, ils ont besoin de ça. Évidemment, ils savent. Ils n'ont pas besoin d'un sifflet pour comprendre qu'ils ont fait un mauvais match. Ils n'ont pas besoin d'un sifflet pour comprendre qu'il faut changer quelque chose, pour travailler encore plus. Ils n'ont pas besoin de ça. Par contre, ils ont besoin ils ont besoin de confiance aussi. Et peut-être encore plus dans des moments comme ça. Et le supporter, c'est le supporter à long terme. C'est pas un spectateur, c'est un supporter. Le supporter, c'est quelqu'un qui supporte, quoi. Voilà. Moi, je serais de cet avis. Mais moi, des fois, je me laisse à surprendre aussi à suivre un match et puis avoir des commentaires à chaud comme ça. Voilà, peut-être parce qu'on est un peu méditerranéen aussi. Je pense qu'une équipe et des joueurs ont plus besoin de ça. Ouais.
Ce qu'ils ont aimé chez vous, les Anglais, et en particulier les supporters de Manchester, c'est précisément que vous ayez conservé la totalité de votre caractère méditerranéen, que vous ayez été vous-même tout au long de ce parcours, que vous ayez fait très peu de compromis, et sur le terrain, et sur le discours. Qu'est-ce qui fait la magie de Cantona là-bas? Avec le recul, encore une fois, on n'est pas dans le présent, on est avec la distance. Comment l'expliquer? Peut-être ça s'explique pas d'ailleurs.
Ouais, je sais pas. Je sais pas déjà, j'ai jamais voulu me poser la question.
Ouais.
Quand je jouais. Parce que c'est pas bien de savoir pourquoi on nous aime, quoi, je crois. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est beau, quoi. Il perd tout son charme, quoi. Donc j'ai jamais voulu comprendre. J'ai toujours refusé de comprendre. J'ai toujours fui le truc. fuis vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même aussi, à me poser ce genre de questions, quoi. Juste, c'était le travail, comment faire pour continuer d'avancer comme ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, je me la pose toujours pas la question, quoi. Voilà. Je me la pose.
Ça se résume à la.
Je pense que ça vient aussi du fait qu'on a joué. J'ai joué dans une grande équipe. J'ai joué dans une grande équipe, à un poste peut-être qui est plus en vue que notre. Où les supporters, ils se retrouvent. Je pense que c'est. Il y a le jeu, peut-être la personnalité aussi, je sais pas.
Quand devant eux, je crois qu'ils étaient 80 000, vous leur avez dit « Je vous aime, je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime » en anglais, dans un anglais français.
C'était à Leeds.
C'était à Leeds, pardon.
C'était à Leeds quand je suis arrivé, la première année où on est champion avec Leeds.
Et là, c'est l'ovation.
Oui, mais là, c'est l'ovation, sauf que on me passe le micro et je parle pas un mot d'anglais. Je venais d'arriver, il y avait 6 mois, quoi. Donc, ouais, je vous aime, I love you, I don't know why, but I love you. Ils en ont fait une chanson et tout.
Mais c'est incroyable quand même.
Mais c'est incroyable.
C'est incroyable.
Mais finalement, c'est pas mal comme truc, comme quoi, avec très peu de mots. Oui. Parce qu'est-ce qu'on sait pourquoi on aime les autres, justement, c'est pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est important de pas se poser la question pourquoi on nous aime, quoi. Voilà. Mais on s'aime.
Parlez-nous de ce personnage de minute d'Alex Ferguson, cet entraîneur de Manchester United, qui a été quand même. En partie responsable de ce succès, en partie seulement, mais qu'est-ce qu'il avait de magique, cet homme ?
C'était un passionné, déjà. Hein. C'était un fou de... C'était un gagneur exceptionnel. C'est quelqu'un qui connaît le jeu parfaitement, évidemment. Quelqu'un qui sait prendre les hommes comme ils sont et tirer 100% de chacun. C'est quelqu'un qui vous donne la confiance nécessaire. C'est surtout quelqu'un qui trouve toujours les mots pour arriver à nous motiver, quoi. Vous savez, quand les matchs se jouent les uns derrière les autres, machin. C'est-à-dire qu'il y a toujours des objectifs. Il va toujours trouver des statistiques quelque part qu'il y a quelque chose à battre, quoi. Voilà, on rentre pas simplement sur le terrain pour gagner ce match, on rentre sur ce terrain pour gagner autre chose, quoi, que ce simple match, quoi. Même s'il est important, hein. Voilà, qui trouve toujours les mots, quoi. Et aussi, chaque match est un moment exceptionnel. Pour lui. Et il transmet cette passion-là. C'est-à-dire qu'il a 70 ans, moi je l'ai connu jusqu'à, en fait, ça faisait 15 ans qu'il était là, quoi. C'était chaque match, et après il a continué, à 25 ans, et jusqu'à sa dernière année, il a gagné, quoi. Donc il transmet cette passion, quoi. Il transmet cette passion, et en même temps ce respect qu'on peut avoir pour lui, mais en même temps pas mettre en avant le fait qu'il ait gagné des choses, quoi. Voilà. Et non seulement il ne met pas en avant, mais il fait bien sentir que le prochain match, c'est presque le premier match de sa carrière, quoi. Voilà. Et quand vous voyez quelqu'un comme ça qui va aborder un match comme si c'était le premier de sa carrière, alors que ça fait 25 ans et 10 titres qu'il a gagné, et 2 Coupes d'Europe, et je sais pas trop combien de trucs, ben il vous emporte, quoi. Prends avec lui, et puis vous embarque, et puis vous êtes galvanisé, quoi.
Il y avait que ces hommes-là. Vous...
Mais en même temps, pas la pression, quoi. Pas de pression, pas de.
Tout dans la subtilité.
Voilà.
Tout dans la...
Pas de discours comme ça qu'on va chercher, qu'on a appris dans les trucs de formation d'entraîneur, là. Vous voyez? Non. Trouver le mot dans l'instant, quoi. Trouver le mot dans l'instant. Cette semaine-là, il se passait tel truc, il se passe ça. Et je trouve les mots. Et chaque match, c'est des nouveaux mots, quoi. C'est ça qui est important.
C'est de la création.
C'est ce que dit Bielsa aussi, très bien. C'est pour ça que j'aime Bielsa. Enfin, son discours, je n'ai jamais assisté à une causerie d'avant-match. Mais c'est ce qu'il semble dire aussi. Que les joueurs n'ont pas besoin d'entendre ce qu'on a toujours entendu, ce qu'ils ont toujours entendu, parce qu'il y a trop de gens qui sortent d'un système de formation d'entraîneur où on apprend à dire certaines choses dans certaines conditions. Comme si, après chaque cet événement, il faut dire ça. Après cet événement, il faut dire ça. Non, il y a aussi des gens qui doivent s'exprimer avec ce qu'ils ont, avec leur personnalité, avec l'analyse qu'ils ont des choses, et leur propre analyse des choses, et leur propre ressenti des choses. Et sentir à tel moment ce que les joueurs ont besoin d'entendre. C'est pas ce que lui, il a envie de dire. c'est ce que les joueurs ils ont besoin d'entendre, qui est important. Mourinho, quand il dit, quand il a la mi-temps, des fois, il dit, il envoie le thé, machin. S'il fait ça, c'est pas pour lui qu'il fait ça. C'est qu'il sait qu'à ce moment-là, les joueurs ont besoin de ça. C'est ça un grand entraîneur et un grand psychologue. Mourinho, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui tire 100% de joueurs. Il a eu des joueurs comme Schneider, et qui a jamais été aussi bon que quand Mourinho était à l'Inter de Milan. Quand il a eu Deco à Porto. Et là, il fait pareil avec Hazard. Et c'est des gens qui trouvent les mots. Qui trouvent les mots pour chacun. Et qui, quelle que soit leur réaction, il dit un entraîneur, c'est un acteur aussi. Un acteur, pourquoi? Parce que si les joueurs ont besoin de sentir une certaine agressivité, eh bien, ils jouent l'agressivité. Et les joueurs doivent y croire. Parce qu'à ce moment-là, c'est de ça. Donc, c'est un besoin. L'entraîneur se dit à ce moment-là. Et Mourinho, c'est un génie dans ce sens. Ferguson faisait partie de ces gens-là. Et je pense que Bielsa fait partie de ces gens-là aussi.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Éric Cantona. Voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élise Le, réalisation Luc-Jean Reynaud, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.
Today!